Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Ça s'appelle le syndrome du glissement. La notion est controversée par certains cliniciens, mais elle raconte bien la menace qui plane sur des milliers de personnes âgées confinées. Car l'expression n'est pas seulement poétique. D'après la revue du praticien, techniquement, c'est une grande déstabilisation somatique et psychique, d'évolution gravissime, survenant le plus souvent chez des hommes ou des femmes de plus de 80 ans, fragiles et polypathologiques à la suite d'un facteur déclenchant déstabilisant. En gros, ce n'est pas le glissement progressif du plaisir, mais le contraire, le lâchage progressif de la vie, un état dans lequel on cesse de lutter, on se laisse entraîner vers la mort, on glisse vers elle, avec une certaine complaisance, peut-être même. Et ça peut aller très vite. Le syndrome se déclenche en cas d'isolement, de perte d'un proche, de dépression. Il est associé à une absence de goût pour la vie, la nourriture, de volonté, de mobilité. On ne bouge plus, on l'attend. On appelle ça parfois d'ailleurs le suicide inconscient. Toutes celles et ceux qui ont été très malades ou affligés en connaissent une forme atténuée. Et si j'arrêtais de m'accrocher, si je me laissais glisser dans la fièvre, la faiblesse ou la douleur, si je m'abandonnais? C'est ainsi que dans les EHPAD où la pandémie a été si meurtrière et l'isolement si dur, la crainte du syndrome du glissement a fait rouvrir les établissements aux proches au bout de quelques semaines. Tout de suite dans les pieds sur terre, Daniel, Rosine et Suzanne sont trois dames qui, chacune à leur façon, ont trouvé le moyen de ne pas glisser, de ne rien lui céder à la grande faucheuse. L'une a organisé son quotidien avec une légère fantaisie, l'autre a préparé sa mort avec un tel soin qu'elle a fini par l'oublier, et la troisième a eu le bonheur de s'entourer d'une fidèle compagne. Toutes trois ont eu la chance de rester confinées chez elles, c'est vrai. On écoute leur histoire tout de suite dans les pieds sur terre par Alice Babin.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, je m'appelle Danielle Cécile. J'ai 74 ans, enfin, du moins, je me prépare à les avoir. J'habite Dinard depuis 3 ans. J'ai quitté le Midi quand mon mari a été paralysé. Il a 86 ans, est hémiplégique, c'est un peu lourd pour moi. Je n'ai plus de vie sociale du tout, du tout, du tout. Et donc, le mercredi, jour des enfants, il y a une dame qui vient m'aider, qui s'appelle Guénaëlle, et elle vient faire déjeuner mon mari, et je rentre à 18h. Et c'est mon petit moment de liberté de la semaine. Et puis, j'ai une petite jeune fille qui s'appelle Agnès, qui est adorable, qui vient le matin et le mercredi pour que je puisse être sereine de 16h à 18h. Comme ça, je sais qu'il n'est jamais seul. Voilà. Donc, si vous voulez, pour moi, ce confinement, c'est la double peine, parce que ce jour, ce demi-jour de liberté, ben, je ne l'ai plus. Et puis, on dit les aidants, mais être aidant, c'est votre quotidien qui est bouleversé, quoi. C'est tout le temps. Tout le temps. C'est jour et nuit. Parce qu'avant, j'avais quelqu'un qui s'occupait du ménage, de machin, de tout. Et maintenant, je fais tout. Depuis 3 semaines, je fais tout toute seule, comme une grande. Mais les infirmières libérales passent 10, 12 minutes. Le samedi, c'est la douche, donc là, c'est plus youx. Mais autrement, je le sors des toilettes, je le relave, je change de fauteuil, je mets la crème, je lui lave les dents, je fais tout. Voilà, je prépare le repas et je m'occupe de moi un peu. Et au milieu de tout ça, voilà, la journée passe vite en fin de compte, parce que toute ma matinée est occupée par mon mari. Après, ben, je fais son lit, je change les draps, après je l'emmène dans le salon avec sa table, ses journaux, enfin il ne lit plus que d'un œil, donc c'est difficile. Alors je lui prépare des articles prédécoupés, ça va plus, c'est plus facile pour lui. Il n'a pas de vision périphérique, donc sur le côté, même dans son assiette, il faut que je mette tout à droite. Et puis d'autre part, il n'a plus ses facultés cognitives, donc je ne peux pas discuter avec lui, très peu. Donc, et ça, c'est dur aussi. Son cerveau n'est plus apte à comprendre. Donc, si vous voulez, je m'occupe. J'ai lu, je ne sais pas qui a écrit ça, « Main occupée, mauvaise pensée chassée ». Donc, je n'arrête pas. Je bricole sans arrêt. où je fais des papiers. Alors, je fais un truc qui m'embête, puis après, je fais un truc qui me plaît bien. Donc, j'essaie d'alterner entre les trucs embêtants et les trucs qui me plaisent bien. Voilà. Et le matin, je me lève de bonne heure pour avoir une trois quarts d'heure pour lire tranquille, sans avoir mon mari à gérer. Et c'est mon seul moment tranquille où, waouh, et quand il est couché. Là, le monde est à moi. Enfin, je lui prépare son dîner. Hein. Mais voilà. Aller jeter les bouteilles vides, prendre la voiture, rouler les vitres ouvertes et aller jusqu'au prochain carrefour avec mes bouteilles, mes plastiques, eh bien, c'est un petit moment de liberté, oui. Avant, ce qui était corvée devient petit bonheur. Et puis, on n'est pas libre, quoi. Je ne peux pas sortir voir du monde. C'est comme si j'avais une voiture et qu'elle était en panne, que je ne puisse pas m'en servir, si vous voulez. Je peux pas sortir, quoi. J'ai fait une visite interdite à ma meilleure amie Jacqueline. On a toujours envie de faire ce qui est interdit, bien sûr. Les gendarmes m'ont arrêté au barrage. J'avais des bouteilles d'eau, du Vichy et des vivres et de la bonne salade et du pain qu'elle aime bien. C'est comme ma sœur. Il m'a dit, c'est bien. Lui, il a bien compris. Voilà, mais... L'infirmière s'est fâchée, m'a dit, vous vous rendez compte, madame, ça n'est pas prudent. Moi, mon mari n'est pas sorti, et ma petite fille, depuis, ils vont au drive chercher les commandes, et c'est tout. Alors, je me suis fait copieusement attraper, pour ne pas dire autre chose, et, oh là là, je m'en suis pris plein la tête. Et si ses yeux avaient des mitraillettes avec son masque, j'étais descendue à bout portant, hein, c'est... Alors là, maintenant, hier, j'avais une demi-heure devant moi, je me suis fabriqué des masques, alors en sopalin plié, doublé en filtre à café posé en quinconce, avec un élastique que j'ai acheté en bande de tissu avec un trou au milieu que je découpe, et je mets ça derrière la tête, comme ça me fait un masque. Et j'en fabrique pour ma voisine aussi. On a tellement besoin des autres, de les voir, de les toucher, de leur dire qu'on les aime, et on a du mal à rester sans voir personne. C'est dur. Les relations humaines, moi j'ai toujours fait des métiers d'accueil, j'ai toujours, j'aime bien voir du monde. J'ai besoin de moments de solitude aussi, mais j'ai besoin de voir du monde, de discuter. J'ai une voisine aussi que je vais voir, mais je reste sur sa pelouse et elle dans sa maison, comme si j'avais la peste et le choléra. Voilà. Alors quand j'ai le moral dans les chaussettes, je pense à ces femmes dans des camps de concentration. Style Geneviève de Gaulle-Antonioz qui faisait des courses de cancrelat dans sa cellule car on l'avait éloignée de ses meilleurs amis. Ce sont des femmes pour qui j'ai une admiration sans limite et je n'ai pas de quoi me plaindre, quoi. Mais c'est un moment difficile à passer, c'est un cap. Et le fermier, lui, disait, mon père m'a dit, dit-il, si tu veux être heureux, regarde en dessous. Alors là, pas besoin d'être grand philosophe pour comprendre, il y a toujours mieux, mais il y a toujours pire. Il y a toujours pire, toujours plus pauvre, toujours plus moche, toujours plus... Ceci, ça aide à relativiser. Vous remettez les pendules à l'heure, tous les jours, à chaque fois que vous alliez les voir. La vie n'est pas une personne, je n'ai pas gagné le concours, mais c'est difficile. De Gaulle disait la vieillesse est un naufrage, en quoi il avait tout à fait raison, et c'est tout à fait d'actualité. Il faut vivre, en fait, il faudrait être capable de vivre comme si on allait tous mourir demain. Et on serait moins bêtes, c'est sûr. On irait à l'essentiel. Voilà. Je vais aller voir mon époux, Ventable. comme je l'appelle comme ça, même devant lui, il s'appelle Joseph. Je vais aller le voir et puis je vais vaquer à mes occupations, c'est-à-dire que je vais repasser. Après, je ferai quelques papiers et après, j'irai faire le tour du pâté de maison pour m'aérer un peu l'esprit. Je prends les petits bonheurs, c'est-à-dire quand je vois le rouge-gorge le matin, quand je prends mon petit-déj, eh bien, c'est un petit bonheur. C'est mon oiseau préféré. Il est fier, indépendant et en même temps très convivial parce qu'il s'approche de vous facilement. Voilà.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Rosine, j'ai 77 ans et à l'heure actuelle, donc, je suis confinée à Castelnau-le-Lez. C'est une petite ville en banlieue de Montpellier. Avec mon mari, donc Terencio, qui lui a 82 ans, je suis une personne à risque, pour la bonne raison que j'ai une pathologie donc pulmonaire chronique et du type asthme. En gros, c'est comme si j'avais plus du tout de défense immunitaire à ce niveau-là, et je ramasse donc tout ce qui passe. Voilà, et ça se transforme généralement en catastrophe. Quand j'ai vu le Covid arriver, je me suis dit effectivement... Il faut que tu prépares un peu ta faim, hein, parce que si tu l'attrapes, ça c'est à tous les coups tu y passes. Bon, d'autant plus que j'ai été confronté à ça il y a 3 ans, hein, puisqu'il y a 3 ans, j'étais à peu près dans la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les gens qui ont le coronavirus et qui se trouvent en réanimation, là, ce qu'on voit à la télé. Je me suis retrouvé d'abord en soins intensifs et ensuite, juste quelques heures après, je suis tombé dans le coma. Et donc, je me suis retrouvé en réanimation. Ça a duré tout de même 3 semaines, 21 jours dans cette situation. C'est quand même très, très long. Si bien que, finalement, quand je dormais, en fait, je voyais ma mort. Mon seul rêve, je peux pas dire cauchemar, parce que c'était pas des cauchemars. Le seul rêve que je faisais, c'était celui de ma mort. Parfois, j'entendais des cloches. Les cloches sonnaient qui se répétaient de clocher en clocher. Bon. C'est tout. Bon, je savais que c'était normal. D'autres fois, c'était pas des cloches, c'était des sonneries de téléphone. J'entendais des sonneries de téléphone qui se répondaient. Donc, je savais que j'étais morte. Voilà. Donc, j'ai eu une impression de familiarité avec la chose et ça ne me faisait pas peur. Voilà. Et donc, effectivement, quand cette maladie est arrivée, je me suis dit que j'étais vraiment la personne idéale pour l'attraper et pour en mourir. Bon, d'autant plus que j'avais expressément mis dans mon dossier, il est expressément écrit que je ne veux absolument plus être réanimé. Donc, je me disais qu'effectivement, il serait assez bien content d'avoir une personne qui ne veut même pas entrer en réanimation. Les lits sont bien assez occupés comme ça. Mon mari et moi, ça fait plusieurs années même qu'on se dit, bon, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on prévoie nos obsèques, il faut qu'on s'achète une concession cimetière. Mais bon, vous savez, c'est un peu comme dans les fables de La Fontaine, on en parle, mais finalement, on a l'impression toujours que c'est très loin. Et voilà, c'est quand on est confronté comme ça, qu'on est un peu le nez dans le bidon, qu'on se dit qu'il faut faire quelque chose. Je me suis posé la question, bon, finalement, tu veux quoi pour ton enterrement ou ta crémation? En réalité, j'avais un peu anticipé tout ça et j'avais prévu la tenue que j'aurais. J'avais même mis donc sur les petites clés USB que j'avais enregistrées pour ma fille. Je lui avais dit donc où se trouvaient ses vêtements, etc. J'avais choisi un ensemble que j'ai, pantalon noir tout simplement, et puis une blouse blanche, voilà. Mais je me rends compte, voilà, maintenant, puisque les choses évoluent au fur et à mesure. On vous dit que si jamais vous mourrez en réa, par exemple, il n'est même pas question qu'on vous habille, d'ailleurs. Comme autrefois, les gens qui mouraient de la peste, hein, on vous met sans vêtements, hein, c'est-à-dire nu, dans une housse en plastique qu'on ferme certainement très rapidement, et dans un cercueil immédiatement. Donc tout ce que j'ai écrit, je me rends compte que ça ne sert pas à grand-chose. J'ai quand même décidé que je serai incinéré, donc ça fera certainement bon. Mais les cimetières sont en flux tendu. Et j'ai donc décidé de ranger un peu des tas de souvenirs. J'ai mis de l'ordre, j'ai pensé à mes enfants, à mes petits-enfants. Je me suis dit que j'allais donc écrire l'histoire de mes parents, puis un tout petit peu de mes grands-parents. J'essaye d'écrire un petit peu tous les jours. Voilà, donc je m'y mets tout doucement. Alors ça dépend des jours, ça dépend si je me lève tôt ou pas. Préparer ma fin, hein, préparer ma mort, c'est quelque chose qui me donne une raison de vivre et non pas une raison de mourir, parce que ça me permet d'avoir une espèce de mainmise là-dessus et d'organiser ça, de continuer à rester active, hein, et de considérer que d'abord voilà, ça fait partie de la vie. Ah, et donc, il faut pas avoir peur.
Suzanne?
Oui, mon prénom est Suzanne. Voilà.
Et l'âge?
L'âge? J'ai 97 ans. 97. Mais moi, j'aurais pas voulu arriver à cet âge-là.
Non, je ne veux pas dire ça, madame.
C'est pas un âge de vivre comme ça.
Je m'appelle Farida et je suis une auxiliaire de vie. On aide les personnes âgées à domicile, voilà. Ça fait un an que je travaille avec Madame Meilleur. C'est une femme qui reste toujours à la maison et j'ai toujours été chez elle et tout. Le problème, c'est que avec le confinement pour Madame Meilleur, ça change un petit peu parce que avant, sa fille, elle venait tous les jours. Elle lui manque sa fille. Elle dit toujours je suis bien et on va dépasser tout ça, mais je sais qu'elle est angoissée, au fond d'elle, elle est angoissée. Mais elle dit pas, mais moi je le sens quand elle était angoissée, oui, je le sens. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe, c'est pas si ça va prendre beaucoup de temps ou pas. Et moi je lui raconte pas tout ce qui se passe. Je ne veux pas la chambouler avec tout ça, elle va mettre dans sa tête, elle va pas dormir la nuit, elle va penser et tout. Je lui raconte pas vraiment ce qui se passe dehors, voilà. Mais avec ce Covid, toujours je suis en masque, toujours en gants, je me lave quand je rentre et je la protège, quoi. Je me protège et je la protège elle-même. C'est pas que moi, hein. Il y a même les infirmiers du matin, ils se protègent. Après, moi, j'arrive à midi chez elle parce que c'est une femme qui peut pas manger toute seule. C'est moi qui vais la faire manger, c'est moi qui lui chauffe la nourriture et je la fais manger avec mes mains. Elle peut pas avec ses mains, elle peut pas manger. Voilà. Après, il faut que j'entretienne la maison, parce que sa maison, elle est dans un petit appartement, et sa maison, elle doit toujours être propre dans sa maison. Je fais son lit chaque jour. Son lit, on le fait. Après, encore, si bien sûr, elle ne va pas rester de 9h du matin jusqu'à midi, elle ne fait rien du tout dans sa protection. Il faut que je change la protection pour elle. Des fois, je la nettoie. Et des fois, elle me demande de faire les ongles. Si elle a des ongles un peu poussés, je fais l'entretien des ongles avec elle. Des fois, je la coiffe. Des fois, je la maquille. Parce que elle adore faire ça. Comme le jour de son anniversaire, c'est moi qui l'a habillée. C'est moi qui l'a maquillée. Ça, c'est comme si j'ai fêté l'anniversaire avec ma grand-mère. On a fêté ça, je l'ai maquillée, je l'ai habillée, je l'ai ramenée au salon, comme si on a fêté en famille. Voilà, elle a l'habitude de me voir, moi, plus que peut-être par rapport à ses filles. Et je passe encore le soir avec elle, ça veut dire même le soir, je change là sa protection, je lui donne la soupe, je les mets au lit, je lui change les vêtements parce qu'il faut la mettre en chemise de nuit la nuit et tout. Alors ça veut dire c'est moi qui étais toujours là pour elle.
Que ma famille soit là, c'est vrai. On a mangé, on a à boire.
Voilà.
Et moi, je suis content de l'avoir près de moi. Ah oui, on a toujours besoin de quelqu'un près de soi, qui vous aime. C'est ça le plus important.
J'ai vécu un mariage qui n'est pas vraiment réussi pour moi. Alors, pour Madame Meilleur, je lui raconte un petit peu mes problèmes quotidiens, quand je ne suis pas bien et tout. Déjà, elle remarque quand je ne suis pas bien, elle remarque que je ne suis pas bien. Elle me pose toujours la question, tu n'es pas bien. Quand je lui ai raconté ce que je vis et tout, elle me conseille de partir, elle me conseille de quitter. Elle me dit toujours, si tu n'es pas bien, si tu n'es pas heureuse dans ton foyer, divorce. Libère-toi. Elle m'a dit, si tu n'es pas heureuse, pars. Ne reste pas. Et quand je suis divorcée, bah, je suis directement venue lui dire, madame, ça y est, c'est bon, je suis divorcée. Mais elle était contente pour moi. Moi, je suis contente, mais elle était vraiment contente. Après, mon divorce, c'était juste en confinement. Juste en confinement, moi, je suis partie une journée avant. Je n'habite pas maintenant sur Paris. Je suis dans le 93, alors ce qui fait, quand je rentre chez Madame Meilleur et pour prendre un autre patient, j'ai un peu de temps pour ne pas circuler sur Paris. Madame Meilleur, elle me propose toujours de rester chez elle. Elle me dit, avec le confinement et tout, ne traîne pas d'or. Tu restes avec moi ici. Alors, j'ai toujours resté chez elle. En plus, chez elle, c'est comme si je suis chez moi. Et elle veut pas. Et elle est dans une maison de retraite ou bien dans un EHPAD et tout. Elle veut rester chez elle. Jusqu'à la fin, c'est... On parle jamais de la mort avec elle. On parle que de la vie. Même pas de la mort de son mari, elle parle pas. Mais c'est une femme qui est vraiment vivante, qui est rigolante. Elle rigole beaucoup, hein. Ouais. Quand j'ouvre la porte et je l'appelle, elle me répond toujours oui, je suis là. Je sais pas si les auxiliaires, ils sont tous comme moi, mais moi, je m'attache pour les personnes avec qui je suis. Je forme avec eux une certaine ambiance, une certaine relation. C'est pas la première que je vais accompagner jusqu'à la fin de vie. Et vous savez, j'ai pleuré, c'est comme si c'était mes parents. Et ça me touche. Vous avez un an, deux ans avec une personne, c'est quand même c'est touchant. Hein. Je pense même pas que c'est un travail, au contraire. Je rentre avec un sourire, avec beaucoup d'amour. Je veux lui donner l'amour qu'elle a besoin, parce que Madame Mio, actuellement, elle a besoin de quelqu'un qui la soutient beaucoup. Quand je pars, elle me dit toujours, il faut pas m'oublier. Je lui dis à demain et tout, fais de bons rêves et tout. Elle me dit, il faut pas m'oublier, hein. Je t'attends. Elle me dit toujours ça. Je vais pas l'oublier quand même. Peut-être, je pourrais dire, je fais des choses en dehors de mes heures. Ouais. Avant, elle se lavait de son lit, elle part à la cuisine, elle prend son café à la cuisine. Mais maintenant, comme elle bouge pas, elle reste dans son lit, et ben, on est obligé de mettre devant la table de nuit, quelque chose à manger pour elle. Et ben, elle peut pas se tourner pour le ramener et tout, parce que ses mains, ils sont petites et tout, 97 ans quand même. Hein. Ben, j'ai été chercher une petite table à roulette, vous pouvez dire, de but de jumeau jusqu'à chez elle dans le 20e. Je l'ai cherché rien pour elle, mais ça rentre pas dans mon service. Hein. Mais rien pour qu'elle va voir la table devant elle. C'est une table médicalisée, c'est juste pour qu'elle soit devant son lit. Comme ça, elle peut prendre quelque chose et la mettre de côté parce qu'elle a des roulettes. Voilà. c'est des choses qu'on peut faire pour créer une certaine amitié avec des gens, un certain amour avec des gens. Si j'ai pas chaud au cœur, je vais pas me lever le matin.
Bonne fille, vous savez.
Ils ont vu pire que ça. Elle a vécu la guerre.
Alors, vous savez, moi, je suis gentille.
Oui, ça veut dire elle a vécu beaucoup quand même. Elle a vécu tout ce qui se passait avant. Elle a dit toujours qu'on va s'en sortir, hein, madame Ia?
Oui, bien sûr.
Même avec cette épidémie, on va s'en sortir.
Ainsi va la vie d'ici, la vie elle a d'ici-bas. Débarquer batterie, le premier pas dansé à l'bord des écoliers. Balancer dans l'air, sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fond, la nuit d'avis du soufflet qui s'est tiré, dit c'est bon, c'est temps de plus. Si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit. Les piquets pas costés, pas de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le-nous donc, dit, dans des mondes où beau doux désir ici. Efficace est d'abord, passer. Sur ton accord de bande, tout touche à coucher. Poulet passé, là, j'ai là du bout des doigts. D'aussi l'eau sont chassés, tu médites tes fois, tes faces au firmament, une note cassée. Casse mon année plus jamais dans la scène. La musique a fini, mélodie qui vit, et file la masse en bas, dédicacée là-bas dans l'horizon. Sur ton accord de bande, tout touche à toucher. Poulet passé, là, j'ai là du bout des doigts. D'aussi l'eau sont chassés, tu médites tes fois, tes faces au firmament, une note cassée. Casse mon année plus jamais dans la scène. La musique a fini, mélodie qui vit, et file la masse en bas, dédicacée là-bas dans l'horizon. Ainsi va lui battre la vie ça va, tu l'as dit. Au bal aussi, c'est là que t'as tout vu passer, le passé dépaysé. Vas-y, l'évasif, vas-y, l'enfant, tout petit déjà. Jadis, on a dit, mais il n'y en a que c'était comme t'es tout, tu l'as parce qu'on m'a con. Si c'était dommage, si c'est un hommage aux hommes assis devant, vu de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous donc, dis, dans des mots doux, vos doux désirs ici. Efficace est d'abord, passer. Si l'on vient, disparaît tout langage. N'embraye qu'on me paie qu'une désir ambitieuse. Assurément, libère tout l'animal sauvage. La cauche, comme t'es la haine.
C'était Daniel, Rosine et Suzanne, nos aînés confinés. Un reportage d'Alice Babin réalisé par Yael Mandelbaum et mixé par Eric Villenfin. Merci à Daniel, Aurélie, Rosine et Alicia et à Madame Meyer ainsi qu'à Farida et à Laurence Gère. Roxane Poulain, c'est attachée de production des Pieds sur Terre et Sarah Djiriwi, c'est notre stagiaire.